jours, on se retrouve pour une nouvelle émission spéciale avec Fabien, le programmateur du Bourget Cinéma de Fort-Calquier. Salut Fabien.
Salut Pierre.
Alors, on vient faire une émission autour de François de Roubaix, qui est un créateur de musique de films. Ça a à voir avec des séances qui se dérouleront au Bourget le samedi 6 janvier avec Le Samouraï de Jean-Pierre Melville, donc avec Alain Delon qui ne parle pas dedans. Dernier domicile connu de José Giovanni qui sera diffusé le jeudi 11 janvier. François de Roubaix ayant donc réalisé les musiques de ces deux films. Et le samedi 6 janvier à 18h, on aura également la projection d'un film documentaire, François de Roubaix, l'aventurier, consacré au travail de ce musicien. Donc, moi, je découvre François de Roubaix en compagnie de Fabien, et donc, je le laisse nous le faire découvrir.
Oui, merci Pierre. Pour tout vous dire, j'ai revu à l'occasion de la parution récente d'un coffret consacré au samouraï de Melville. En DVD, Blu-ray, une très belle édition qui inclut le vinyle d'un 33 tours de la musique du Samouraï par François de Roubaix. Et cette édition DVD Blu-ray est particulièrement axée justement sur l'apport de François de Roubaix pour ce film, qui est vraiment un film décisif dans son parcours et qui est quand même une des grandes réussites de bandes originales, comme on dit, de ces années-là. Et qui constitue une sorte d'apogée, d'apothéose parmi les collaborations nombreuses de François de Roubaix. Avec Jean-Pierre Melville, il n'y en aura qu'une, mais on y reviendra tout à l'heure, mais c'était une grande réussite. Et François de Roubaix, c'est un nom qui nous est plus ou moins familier, mais ses musiques, je pense quand on est né dans les années, fin des années 60, années 70, voire peut-être même début des années 80, c'est des musiques avec lesquelles on a grandi. On a grandi parce que soit on a vu les films au cinéma au moment de leur sortie, jusqu'en 75, puisqu'il est mort en 75, prématurément. Soit on a grandi, comme c'est mon cas, dans les années 80. Et dans ce cas-là, on a vu ces films qui étaient les films du samedi soir au cinéma, on les a vus, sont devenus les films du dimanche soir à la télévision. Et moi, j'ai vraiment grandi avec ces films-là, avec ces musiques-là. Et plus encore peut-être quotidiennement, puisque François de Roubaix a conçu, on y reviendra également, des génériques de télévision. Mais évidemment, quand on est enfant, on grandit avec ces musiques qui nous sont combien familières, mais on ne met pas forcément un nom dessus. Et c'est bien plus tardivement que j'ai appris qui était François de Roubaix et que j'ai relié toutes ces musiques et tous ces films et toutes ces émissions ou séries télé à cette même identité en quelque sorte qui était celle de François de Roubaix et la patte bien singulière qui lui appartenait. Alors, ce qu'on a entendu en ouverture de cette émission, c'est le thème principal des Grandes Gueules de Robert Enrico, qui est le premier long métrage en 1965 sur lequel François de Roubaix va travailler. Alors, en amont, c'est peut-être intéressant quand même de dire un peu qui il est, de vous donner quelques éléments biographiques, mais l'idée de cette émission avec Pierre, c'est bien sûr, au-delà de ces éléments biographiques, de vous donner à entendre des extraits de ses musiques qui sans doute résonneront en vous de manière plus ou moins familière, mais vous saisirez bien toute la fantaisie, toute la poésie qui émanait de ces musiques, qu'on les entende de manière autonome, ou qu'on revoit les films pour lesquels elles ont été conçues et réalisées et composées. Alors, Les Grandes Gueules, 1965, François de Roubaix avait 26 ans, il était né le 3 avril 1939. Voilà, il aurait 84 ans aujourd'hui, et on garde de lui l'image d'un éternel jeune homme, puisqu'il meurt à 36 ans le 21 novembre 1975. Il était issu d'une famille plutôt aisée, son père était cinéaste documentariste, et c'est lui, son père, Paul de Roubaix, qui lui mettra le pied à l'étrier, en quelque sorte. Les deux parents lui donneront le goût du cinéma.
Et sa mère, Mima Indeli, était cinéaste d'animation.
Effectivement, voilà, donc c'est dire la continuité qui existait entre ses parents et avec lui. Ils lui donneront aussi le goût, par exemple, de la plongée sous-marine. Et toutes ces pistes, toutes ces passions qui sont celles de François de Roubaix dans son enfance, avec ses parents en famille, il va les accomplir tout au long de sa vie jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort précisément parce que François de Roubaix meurt accidentellement en novembre 1975 d'un accident de plongée sous-marine.
Dans une grotte sous-marine, c'est
Dans
ça?
une grotte sous-marine, exactement. Il a plongé parce qu'il donnait le plein espace dans sa vie à ses passions, la musique, le cinéma, la plongée, le goût de l'aventure. Tout cela, il y a été initié par ses parents très tôt, en fait. Son père voyageait beaucoup. Lui-même a eu le goût du voyage très rapidement. Il ramenait de ses voyages des instruments de musique. Tout au long de sa vie, il va donner le plein espace à toutes ses passions. Et surtout, ce qui est important de dire, c'est qu'il était un autodidacte complet. Il n'a eu aucune formation musicale. De même qu'il sera également réalisateur, on n'y reviendra pas plus en détail, il a à peine eu le temps de réaliser quelques courts-métrages, mais il avait vraiment ce goût du cinéma que j'évoquais. Il a tenté le concours de l'IDEC, sans doute à la fin des années 50, début 60. L'IDEC était l'Institut des Hautes Études Cinématographiques, c'est devenu la FEMIS. C'était un peu à l'époque le passage obligé quand même pour devenir réalisateur. Mais il va rater ce concours de l'IDEC, ce qui semble pour lui être une impasse à ce moment-là, du fait de l'échec à ce concours, va finalement lui ouvrir une porte parce que, bon, par le biais de son père, il y avait quand même cette facilité que son père était réalisateur, qu'il avait quand même un certain réseau. Et parmi les assistants de son père, il y avait un homme tout jeune, à peine plus âgé que lui, qui était Robert Enrico. Robert Enrico est un tout jeune réalisateur à l'époque. Et Robert Enrico commence à faire des films. Et son premier court-métrage sera la première collaboration au cinéma, pour un film en tout cas, de François de Roubaix. C'est en 1964, un court-métrage qui s'appelle Contrepoint. Et Robert Enrico voit débarquer à cette occasion ce jeune gars qu'il connaît à peine pour l'enregistrement de la musique du film. Il débarque avec une valise pleine de verres d'eau. Et avec ces verres d'eau, à force de bricolage et d'artisanat, et d'un goût infiniment ludique pour la composition spontanée, il va improviser sur les images du film. Robert Enrico va halluciner complètement en disant « Mais qui est ce bouffon, quoi ?» Parce qu'on n'a jamais vu ça à l'époque, cette liberté-là. C'était quand même, faut imaginer qu'à l'époque, tout ça est quand même très très conventionnel, il y a vraiment des codes à respecter. L'image qu'on a du compositeur, que ce soit pour la musique de film ou évidemment la musique savante ou contemporaine, comme lui-même le contestera, ce terme, c'est quelqu'un quand même d'assez sérieux, d'assez rigoureux, qui a fait ses formations, qui a souvent été d'abord un compositeur classique, disons, et pour qui, bien souvent, la musique de film était considérée comme une pratique à peine avouable, assez peu noble. Alors dans les années 60, évidemment, Ennio Morricone va donner ses lettres de noblesse à la musique de film, et on connaît certains des compositeurs de cette époque, on les reconnaît avec une vraie estime, en tout cas, dans leur pratique. Mais en France, jusqu'à présent, ça existait assez peu. Et l'image d'Ennio Morricone n'est quand même pas celle non plus de François de Roubaix, qui est une sorte de jeune hippie à barbe, les cheveux longs, qui est infiniment charmeur en quelque sorte. Et il va apporter ce côté ludique, ce côté fantaisiste, tout en prenant ô combien au sérieux sa propre pratique et en la réalisant avec sérieux, mais de manière autodidacte et empirique. Alors la première collaboration pour un long métrage de cinéma, c'est donc Les Grandes Gueules en 1965. Et à partir de là, en l'espace de 10 ans, 1965-1975, François de Roubaix va réaliser mais une multitude de musiques de films et il va pleinement s'épanouir là-dedans. Il ne va pas avoir forcément le désir de passer à autre chose. Ce n'est pas un marchepied qui va réaliser des ambitions plus hautes. Il avait une sorte de liberté souveraine dans sa pratique et ces musiques de films pour lesquelles on lui donnait un vrai espace de collaboration et de travail, il va s'y épanouir pleinement et réaliser le goût de l'expérimentation qui était le sien, qui n'avait pas besoin de s'affirmer musique expérimentale, musique savante, musique contemporaine. Ce qu'il a envie de faire, il va pleinement le réaliser dans la musique de film. La deuxième collaboration avec Robert Enrico, et on peut écouter cet extrait peut-être, c'est Les Aventuriers. Et c'est important d'évoquer ce film-là aussi, parce que dans ce film, on retrouve deux des acteurs emblématiques de cette époque, c'est Alain Delon et Lino Ventura, on y revient tout à l'heure. Thank you. vous venez d'entendre le journal de bord des aventuriers, ce film qui est donc la deuxième collaboration pour un long métrage de cinéma entre Robert Enrico et François Droubet. Et je vous le disais, ce film est emblématique de ces années-là, alors à divers titres, notamment parce que les acteurs en sont Alain Delon et Lino Ventura. Et s'il est des acteurs qui accompagnent tout le parcours et la filmographie de François Droubet, c'est bien ces deux-là. Il faut bien comprendre que le cinéma de ces années-là et le cinéma auquel va travailler François Droubet, c'est un peu un concours de circonstances, mais c'est ce qui va s'affirmer au fil des années. C'est plus un cinéma d'acteur qu'un cinéma d'auteur. C'est vraiment à l'opposé de la nouvelle vague qui peut encore avoir lieu dans ces années 60. Et ces acteurs-là, c'est avant tout Delon. C'est Delon, par exemple, qui va recommander François Droubet à Jean-Pierre Melville pour Le Samouraï, on y reviendra tout à l'heure. C'est Lino Ventura ô combien, et c'est lui, et c'est pas pour rien non plus qu'on a choisi pour nos séances au Bourguet Le Samouraï avec Delon et Dernier domicile connu avec Ventura. C'est d'autres acteurs emblématiques de cette période, Michel Constantin par exemple, qui est très présent dans la filmographie de François Droubet. Et Robert Enrico, dans ces années-là, comme José Giovanni, travaille beaucoup, de manière récurrente, avec ces mêmes acteurs. Alors, je vous le disais, avec Robert Enrico, François Droubet va faire 9 films en l'espace de 10 ans, c'est beaucoup. Et quasiment tous les films, en fait, de Robert Enrico, entre 65 et 75, François Droubet en conçoit la musique. Au scénario des grandes gueules comme des aventuriers, on retrouve donc José Giovanni, j'ai déjà cité son nom. Est-ce que vous voyez qui est José Giovanni? Je le rappelle au besoin. Parce qu'il est vraiment important, lui aussi, dans le parcours de François Droubet. C'est un homme au passé trouble, collabo sans doute pendant l'occupation et la Deuxième Guerre. Lui-même a fait quelques révélations de son vivant, et puis d'autres ont été faites par la suite. C'est un homme qui a fréquenté largement le milieu du grand banditisme, et qui va enrichir la seconde partie de sa vie, en tant que scénariste, romancier, dialoguiste, des aventures, des expériences qui ont été les siennes dans le grand banditisme ou pendant la période de l'occupation. Donc, à peine sorti de prison dans les années 50, il écrit des romans qui, quasiment tous, vont être adaptés au cinéma. C'en est vraiment impressionnant. Il est notamment à l'origine du livre qui va donner lieu au dernier film de Jacques Becker en 1960, qui s'appelle Le Trou. Je rêve de vous montrer Le Trou de Jacques Becker. Le Trou est une adaptation du premier roman de José Giovanni. Et par la suite, parmi les romans adaptés, Le Deuxième Souffle de Jean-Pierre Melville en 1966, Classe Tourisque, qui sera adopté par Claude Sauté, ce sera le premier long-métrage de Claude Sauté en 1960. La Scoumoune, Un nommé la Roca, Le Gitan, La Loi du Survivant, Les Grandes Gueules, je vous le disais, qui est adapté d'un roman qui s'appelle Le Haut-Fer. C'est dire l'empreinte extrêmement grande sur un certain cinéma populaire de ces années-là, de José Giovanni. Et, le hasard faisant, cette rencontre entre Robert Enrico, François Droubet, José Giovanni, il y a quelque chose qui s'articule de manière assez logique de l'un à l'autre. Et de même que François Droubet a participé à 9 films de Robert Enrico en l'espace de 10 ans, il va concevoir la musique de 6 films de José Giovanni, qui lui aussi va passer à la réalisation après longtemps avoir été scénariste et dialoguiste de ses amis cinéastes dans ces années-là. Donc beaucoup de films importants, en tout cas, pour leur succès populaire et donc pour la popularité évidemment de la musique conçue, exécutée par François Droubet. On peut commencer par écouter peut-être la première collaboration entre José Giovanni, réalisateur, et François Droubet, ce sera La Loi du Survivant en 1967, donc c'est parmi les premières musiques de films de François Droubet, après ses collaborations avec Robert Enrico. Viendra ensuite Le Rapace en 1968 et en 1970, enfin, Dernier domicile connu, dont on vous redit un petit mot, mais on va écouter un long extrait de cette musique magnifique et peut-être une des plus belles de François Droubet.
Thank you.
Voilà, vous venez donc d'entendre un extrait de la bande originale de Dernier domicile connu de José Giovanni avec Lino Ventura et Marlène Jobert. Je vous en dirai un mot à la fin de cette émission puisque le film vous sera donc montré le jeudi 11 janvier à 18h30. Et j'évoquais donc cette collaboration avec José Giovanni et il y a vraiment tout un réseau très très masculin dans le cinéma populaire de ces années-là, à travers ces acteurs que j'évoquais, Delon, Ventura, Michel Constantin, au sein duquel François Droubet fait un peu tache, parce qu'il avait une fantaisie, il avait une poésie en lui, on le perçoit bien en écoutant les extraits de ses musiques, une mélancolie aussi, qui introduisait un peu une forme d'altérité par rapport à ce cinéma très viril, très castagne en quelque sorte, très populaire aussi. Et si ce décalage qui pouvait exister entre ces films et cette musique a permis à cette musique d'être ô combien populaire, et puis comme il y avait quand même un goût et un certain sens de la mélodie, ça permettait d'introduire un peu quelque chose d'un peu différent et d'extrêmement touchant dans ces films-là. Donc, de collaboration en collaboration, d'acteur en acteur qui le recommande à tel ou autre cinéaste, il va continuer son parcours à travers ces films populaires que vous avez sans doute vus dans les années 70. On va vous donner à entendre un extrait d'un autre film de ces années, 1972, La Skoumoun, où l'on retrouve toujours ces mêmes acteurs, avec cette fois-ci Jean-Paul Belmondo, Michel Constantin, mais aussi Claudia Cardinale. La Skoumoun, c'est un thème que vous avez assurément à l'esprit. Le voici.
C'est quand même intéressant de voir l'étendue de la diversité des sonorités qu'il emploie, parfois assez inventives, surprenantes, voire saugrenues, qui donnent un résultat quand même assez étonnant. Mais peut-être, de ce que j'ai vu sur lui, on peut rappeler que c'était un des premiers à avoir un home studio chez lui et qui s'est beaucoup intéressé à la technique des synthétiseurs, etc. C'est quand même quelque chose qui marque sa musique, ça, non ?
Totalement. Il avait une sorte à la fois de coolitude absolue et une passion pour la technologie et les moyens qu'il se donnait pour réaliser sa musique et la composer. Et effectivement, a priori, il semble que ça soit le premier musicien en France à avoir disposé d'un home studio. Bon, il avait plutôt les moyens, il avait un appartement rue de Courcelles, il avait aménagé une pièce où il avait rassemblé à la fois tous les instruments extrêmement variés qu'il avait pu ramener de ses voyages. Et il avait ce goût que je signalais déjà, infiniment ludique, de mélanger tous ces instruments, si bien qu'au sein d'un même extrait, comme celui qu'on vient d'entendre ou d'autres, on va entendre des synthétiseurs avec cette sonorité très vintage aujourd'hui, mais qui n'existait pas quasiment dans la musique de film. Et il va mélanger à ce son de synthé des balafons, une guimbarde, il a un usage très peu modéré de la guimbarde, des maracas, l'ocarina péruvien. Il adore ce goût du mélange, et surtout dans ces années-là, parce qu'il va très vite investir dans du matériel qui, à l'époque, était très pionnier, très novateur. Il va être un des premiers à acquérir un magnétophone 8 pistes dans ces années-là et en faire l'usage pour la musique de film. Lui déclarait dans ces années-là ne pas savoir jouer très bien d'aucun instrument, mais il savait jouer un peu de chaque et il avait beaucoup d'instruments. Et ce que lui a permis le magnétophone 8 pistes qu'il n'aurait pas pu réaliser plus tôt, c'est d'être l'unique interprète d'albums entiers et de superposer les enregistrements, le son des instruments, et d'être le seul interprète, et de passer de la batterie au balafon, à la guimbarde, au synthétiseur, et de mélanger tout ça dans un sorte de joyeux bordel infiniment inventif qui tient de l'art de bricolage, mais avec quand même une science de la mélodie et de la construction qui est très très belle, quoi, au final.
Une liberté qui peut donner libre cours à son inventivité, qui n'est pas négligeable, quoi, puisqu'il n'y a pas beaucoup de moyens à en mettre en œuvre, à part sa technique modérée, mais quand même correcte, et les idées qu'il a en tête, quoi, voilà.
C'est ça, en fait, c'est que d'emblée, il a eu beaucoup d'idées. C'est quelqu'un qui s'est vraiment formé en écoutant le jazz. Il faut savoir qu'au départ, enfant, il avait peu accès à la musique, mais il est tombé sur un harmonica. Adolescent, il a investi dans un trombone. Il a très vite, on était quand même dans les années, fin des années 50, 60, le jazz, Saint-Germain-des-Prés. Il a quand même vécu à Paris où il avait une possibilité d'écouter de la musique et on s'enthousiasmait, cette génération s'enthousiasmait pour le jazz. Et donc pour une forme d'improvisation, de jam collective aussi, qui lui a permis de se former, alors même qu'il ne savait pas lire une partition. Il ne savait pas, dans un premier temps, reproduire la musique qu'il composait sur une partition. Mais au fil des collaborations et des nécessités aussi, parce que, par exemple, pour enregistrer à la SACEM un morceau, il faut en donner la partition à la SACEM. Donc il a dû apprendre. Et il s'est formé, là encore, de manière empirique, de manière à aussi être un tant soit peu crédible vis-à-vis des collaborateurs et pouvoir fournir donc une partition. Dans un premier temps, il a fait appel à des gens pour écrire la musique sur des partitions, puis après, au fur et à mesure, s'est enformé, voilà, de manière toujours joyeuse, mais toujours rigoureuse aussi. Ce mélange de joie, de fantaisie et de rigueur est toujours très perceptible chez lui, à la fois dans le personnage tel que vous le verrez dans le documentaire qu'on montrera le samedi 6 janvier à 18h. Dans ses propos aussi, on retrouve vraiment cette liberté de ton qui n'appartient qu'à lui en cette époque, et ce goût du mélange que tu signalais et qui est vraiment très perceptible dans le morceau qu'on vient d'entendre de La Scoumoun. Alors, effectivement, musicien de studio avant tout, mais au fil des années et de ses collaborations, il va être amené à diriger malgré tout des orchestres, et on peut voir et on verra au cours dans le film aussi des extraits, on le voit diriger un orchestre symphonique, et c'est très très beau parce qu'il y a un effet de collage entre la rigueur extrêmement hiérarchisée d'un orchestre et lui en t-shirt flashy en train de diriger l'ensemble. Il y a quelque chose qui lui correspond bien et on garde pour nous-mêmes, au-delà de sa mort, cette image-là, quoi, de liberté, de désinvolture apparente, mais à la fois réelle, mais de liberté avant tout, quoi. Alors après avoir évoqué le cinéma de Robert Enrico et de José Giovanni, on va revenir un petit peu en arrière, parce que vous avez compris qu'on ne suit pas forcément un ordre chronologique, pour évoquer une des plus belles collaborations, qui est celle de François Droubet avec Jean-Pierre Melville. Alors, ce dont on peut se réjouir, c'est que François Droubet ait participé et travaillé pour un cinéma incroyablement et formidablement populaire, qui nous a donné accès à sa musique et qui lui a laissé une grande liberté, une marge de manœuvre appréciable. Après, évidemment, ce qui fait la différence entre lui et Ennio Morricone, qui exerce aussi dans ces années-là, qui vivra évidemment beaucoup plus vieux, mais qui, au cours de ces années, est pareillement créatif, inventif et prolifique. Ce qui fait la grande différence, c'est qu'Ennio Morricone va s'affirmer avant tout par sa collaboration avec Sergio Leone. Et aujourd'hui, si on connaît la musique d'Ennio Morricone, jusqu'à parfois faire le lapsus, c'est que ses collaborations dans ces années-là sont attachés au cinéma de New Morricone, je viens de faire le lapsus, au film de Sergio Leone.
On peut quand même noter dans les différences que Ennio Morricone a une formation musicale académique extrêmement solide et avancée. Quoi. C'est un compositeur abouti qui a fait des études de composition.
Exactement, mais en fait, cette différence, elle existe entre François Droubet dans ces années-là et tous les autres compositeurs de musique de film. Que ce soit des personnes plus âgées comme Ennio Morricone ou Georges Delerue, qui pratiquent beaucoup la musique de film dans ces années-là, à travers les films de Godard ou de Truffaut, ou des gens davantage de sa génération comme Vladimir Cosma ou Philippe Sard ou Claude Bolling, qui vont collaborer avec des réalisateurs en commun avec François Droubet. La grande différence, et il est le seul dans ce cas, c'est qu'il est autodidacte et qu'il n'a pas cette formation académique que tu signales pour Ennio Morricone. La contrepartie, c'est que voilà, c'est la force et ce qui fait qu'on retient souvent la musique et le nom d'un compositeur, c'est qu'il est rattaché à un cinéaste. Sergio Leone pour Ennio Morricone, Federico Fellini pour Nino Rota, évidemment Alfred Hitchcock pour Bernard Herrmann, ça compte. C'est pourquoi aujourd'hui, mais est-ce un mal, on connaît souvent les musiques de films sans connaître le nom de François Droubet, alors qu'on connaît typiquement le nom d'Ennio Morricone, par exemple. Alors, parmi quand même les collaborations qui comptent, parmi les grands metteurs en scène avec lesquels il a travaillé, quoique étant infiniment attaché au cinéma de Robert Enrico, de José Giovanni, par bien des aspects, ils n'ont pas la carrure, ils n'ont pas la science de la mise en scène qui peut être celle de Jean-Pierre Melville. Et Jean-Pierre Melville, dans ces années-là, alors Jean-Pierre Melville décédera en 73 prématurément, il n'avait qu'une cinquantaine d'années, et il tenait, pour chacun de ses films, Jean-Pierre Melville, a collaboré avec un compositeur différent. Ce qui explique aussi, en dépit du succès et de la réussite de cette collaboration, qu'ils n'aient jamais retravaillé ensemble. Mais en 1967, Jean-Pierre Melville vient de finir le tournage du Samouraï avec Alain Delon. Et en post-production, puisqu'il va s'en soucier très très tard, c'était quelque chose qu'il négligeait beaucoup, la musique de film, Jean-Pierre Melville. Il était tellement concentré sur sa pratique propre qu'il négligeait. Il repoussait toujours en post-production le plus tard possible ce moment à consacrer à la musique de film. Sauf qu'il voit bien que pour Le Samouraï, qui est un film avec très peu de dialogue, dont le premier quart d'heure ne comporte pas un seul dialogue, et où le personnage d'Alain Delon, du samouraï, qui est celui d'un tueur à gages, existe autrement que par le dialogue, il fallait le faire exister et exprimer en quelque sorte l'état d'esprit qui est le sien, ou ce supplément d'âme qui fait la force de ce personnage. Il a pensé que la musique était le moment approprié, qu'il y avait l'espace aussi pour un compositeur d'exprimer quelque chose du personnage. Et Alain Delon, qui a donc déjà rencontré François Droubet avec notamment Les Aventuriers de Robert Enrico l'année précédente, présente François Droubet à Jean-Pierre Melville. Et Jean-Pierre Melville lui donne carte blanche, avec l'idée en tout cas que la musique doit exprimer quelque chose de l'état d'esprit du personnage. Et alors là, je crois en l'espace de 2-3 semaines, c'est fulgurant. Il était quand même d'une inventivité, d'une force de création et de travail extraordinaire. Il va pleinement tenir compte des quelques recommandations que Melville lui fait. Et il va écrire la musique du Samouraï, qui est absolument magistrale. Le Samouraï qu'on vous donnera donc à voir le samedi 6 janvier à 19h. Ne le manquez pas, la version est restaurée en 4K. C'est un pur régal. Et on va écouter tout de suite le thème principal du Samouraï.
Je précise pour les gens qui n'ont pas vu Le Samouraï ou qui ne s'en souviennent pas que c'est un film assez particulier puisque Alain Delon tient le premier rôle du film. C'est un tueur à gages, je crois, c'est ça. Dans le film. Ouais. Et il a excessivement peu de dialogue. Il joue beaucoup sans parler, à un point qu'on voit quand même rarement vu dans un film. C'est un peu une curiosité de ce point de vue-là. Ce qui laisse effectivement une place fort particulière à la musique dans ce cadre.
vous venez donc d'entendre le thème mémorable du samouraï joué par François de Roubaix à l'orgue, un film que vous pourrez donc voir au Bourguet le samedi 6 janvier. On va évoquer rapidement d'autres collaborations qui ont été les siennes dans ces années 65-75. Il y a un cinéaste avec lequel il a travaillé trois fois. Cinéaste un petit peu oublié, à la fois pour des bonnes et des mauvaises raisons, c'est Jean-Pierre Mocky. Et Jean-Pierre Mocky, il y a une première collaboration peu après Le Samouraï, qui date de 1968. C'est La Grande Lessive, qui est quand même un des meilleurs films de ces années de Jean-Pierre Mocky. Film avec Bourville, avec Francis Blanche, avec Roland Dubillard, Michael Lonsdale, Jean Poiré. Et ce film, je le signale d'autant plus volontiers que vous pouvez le voir sur le site d'Arte en replay en ce moment même et jusqu'au mois d'avril. C'est l'occasion pour nous de vous faire entendre le thème principal de ce film, donc La Grande Lessive de Jean-Pierre Mocky, 1968. C'était donc La Grande Lessive de Jean-Pierre Mocky, film de 1968. Et on va évoquer rapidement maintenant quelques collaborations ponctuelles de François de Roubaix dans ces mêmes années. On arrive en 1970. Rendez-vous compte, dans la seule année 1970, il conçoit la musique de 7 films dans la même année 1970. Dernier domicile connu qu'on a évoqué notamment. Et au nombre de ces films-là, il y a L'Homme Orchestre de Serge Corbert, qui est mort il y a quelques mois seulement. Film comique avec Louis de Funès et Olivier de Funès. Et ce qui est intéressant, c'est que manifestement, Louis de Funès avait quand même le désir de se renouveler. On a un peu l'impression que tous les films de Funès se ressemblent. Mais ce film tranche un petit peu dans la filmographie de Funès. On le voit danser notamment avec des séquences de comédie musicale, presque en une sorte de Claude François.
Et chanter.
Ouais, c'est bien possible. C'est un souvenir d'enfant pour moi. Et en fait, ce film, je crois, n'aurait quasiment pu être possible, en tout cas dans la tonalité qu'est la sienne, qu'avec la musique de François de Roubaix. Et c'est Olivier de Funès, le fils de Funès, qui va un jour entendre une musique de François de Roubaix. Il va totalement halluciner en se disant « mais c'est exactement ce qu'il faut pour ce film ». Donc il va faire entendre cette musique à Louis de Funès, qui va se prendre de passion pour cette musique infiniment jeune, qui est d'une modernité qui correspond assez peu jusqu'à présent à la filmographie de Funès. Et c'est grâce à Louis de Funès et à son fils que François de Roubaix va concevoir la musique pour ce film qui porte un titre qui lui correspond tellement bien. L'Homme Orchestre, c'est ce qu'il était avec son magnétophone 8 pistes au sein de son home studio. Et on évoquait tout à l'heure avec toi, Pierre, ces extraits qu'on verra d'ailleurs dans le film documentaire qu'on vous montrera le 6 janvier. On le voit diriger un orchestre. Je ne sais pas dans quelle mesure ces gestes étaient vraiment rigoureux, mais on sent un enthousiasme et une ferveur à laquelle, je pense, les interprètes adhèrent totalement. Et il me semble que c'est précisément la musique de l'homme orchestre pour lequel, évidemment, il avait précisément un orchestre à sa disposition et qu'il dirigeait à cette occasion. Donc la musique, vous allez l'entendre tout de suite, c'est le thème principal de l'homme orchestre, donc du film de Serge Corbère de 1970. L'homme orchestre donc de Serge Corbère, où on retrouve, je vous le disais, toute la fantaisie de François de Roubaix. On est donc en 1970. En 71 encore, il va réaliser beaucoup de musique de film. Et puis il y a un petit temps, voilà, dans le début des années 70, où il va être un peu moins sollicité, mais il y a presque un effet de saturation tellement il est présent partout dans le cinéma français. Mais parmi les collaborations qui sont à signaler dans ces années-là, il y a celle avec Yves Boisset, cinéaste très caractéristique de ces mêmes années 70. Alors on est sur un registre plus politique, avec Le Sceau de l'Ange en 1971, et avec un film qui résonne autrement aussi ici à Fort-Calquier et à Liman notamment. Il s'agit de RAS, film écrit, adapté d'une histoire de Roland Perrault. Et Roland Perrault, qui c'était, Pierre ?
Bien, Roland Perrault, dit Rémy, c'était un des membres fondateurs de la communauté Longomaille, qui continue depuis 30 ans son chemin sans lui, puisqu'il est disparu en 93. Et donc RAS, c'est un roman qu'il avait écrit à partir des expériences assez hard qu'il avait eues en tant qu'appelé de la guerre d'Algérie. Ouais.
Donc on va écouter un extrait de la bande originale de RAS, composée par François de Rompuy. Thank you. Donc on vient d'écouter un extrait de RAS de Yves Boisset, 1973, et dans ces mêmes années où il est un peu moins productif et sollicité par le cinéma, il accepte donc des propositions de la télévision française. Et on sait que les années 70 ont été un peu l'âge d'or de la télévision française, avec une inventivité, une liberté de ton qu'elle a perdue par la suite dans les années 80, ce qui va permettre à François de Roubaix d'accepter et de composer la musique de générique qui nous ont toutes et tous marqués. Et on peut écouter peut-être, Pierre, les deux extraits consécutivement, à la fois le générique du Commissaire Moulin avec Yves Régnier, et puis le générique qui a évidemment bercé nos enfances, en tout cas pour nous qui avons grandi dans les années 80, à savoir Chapi Chapeau. Chapeau donc par François de Roubaix, j'imagine que ça a occasionné en vous quelques réminiscences peut-être.
Tout dépend de l'âge de nos auditeurs.
Exactement, pour nous en tout cas qui avons une quarantaine d'années ou une petite cinquantaine d'années, ça rappelle quelques souvenirs d'une télévision à l'époque quand même très inventive et qui laissait une vraie marge de manœuvre en tout cas aux compositeurs, puisque j'ai d'autres exemples en tête comme Téléchat ou ce genre de choses avec Topor, enfin voilà, c'était les belles années de la télévision française. Bon, pour conclure peut-être, et avant d'écouter, puisque Pierre y tient et moi-même la version de Chapi Chapeau par Philippe Catherine, je voulais vous redire un petit peu l'occasion pour nous de cette émission. C'est un hommage, un focus, comme on dit, consacré à François de Roubaix en deux temps, puisque ce samedi 6 janvier, on vous propose deux séances qui vont s'enchaîner, une à 18h, avec un film documentaire qui s'appelle François de Roubaix, L'Aventurier. C'est un film d'Alexandre Moy et Jean-Yves Guilleux qui a été réalisé entre 2005 et 2007 à l'occasion des 30 ans de la mort de François de Roubaix. Et c'est un film qui est vraiment intéressant, qui nous donne à entendre, à voir et qui nous montre aussi des extraits des films avec pas mal de témoignages de gens qui l'ont connu, avec son fils, avec sa fille, avec Pierre Richard aussi qui était un acolyte dans ces années-là de François de Roubaix, et qui retrace tout le parcours biographique. Et c'est, je pense, une belle entrée en matière, une belle initiation à François de Roubaix, à la fois visuellement et à l'écoute aussi. Ce film est sur un format télévision, donc il dure 52 minutes, la séance est à 18h. C'est dire que, après quelques mots d'introduction de ma part, on va rapidement enchaîner avec une des plus belles collaborations, vous le disiez, dans la filmographie de François de Roubaix, c'est le Samouraï qui a été restauré en 4K et qui vous sera montré à 19h. Donc pensez bien, film documentaire à 18h. Je le précise aussi, la séance vous est offerte. Il n'y aura pas de billetterie pour cette séance. Donc lâchez-vous, venez découvrir François de Roubaix. Et si vous le souhaitez, vous prendrez un ticket pour le film suivant de Jean-Pierre Melville. Donc le Samouraï, qui, je vous le signale aussi, est rediffusé le lendemain, le dimanche 7 janvier à 20h30. Ça, c'est pour cette semaine. Et la semaine suivante, donc, le jeudi 11 janvier, vous pourrez voir et entendre donc une des plus belles musiques de François de Roubaix, une des plus fameuses, et je n'ai pas dit combien la musique de Dernier domicile connu, qui est donc un film de José Giovanni de 1970, a été reprise de par le monde. Robbie Williams, le chanteur américain, a samplé la musique de Dernier domicile connu pour un morceau qui est devenu un tube planétaire qui s'appelle Supreme, mais beaucoup de... dans le hip-hop, dans la musique électronique, on reprit, samplé la musique de Dernier domicile connu qu'on vous a donné à entendre tout à l'heure. Dernier domicile connu vous sera montré jeudi 11 janvier à 18h30 et le film sera rediffusé le lundi 15 janvier à 16h. Voilà, en tout cas, ce sera peut-être un premier temps d'un hommage à François de Roubaix, mais on reviendra peut-être à lui... dans quelques mois, dans quelques années, enfin on se donne toute liberté de reprogrammer des films dont il a composé la musique pour vous montrer un peu l'étendue des talents de François de Roubaix qu'on a, je pense, bien perçu à travers les extraits qu'on vous a donné à entendre. Ce qui est assez beau, vous le verrez, vous l'entendrez dans le film documentaire, c'est que François de Roubaix, c'est évidemment un compositeur de talent, mais c'était aussi un art de vivre, une sorte de philosophie, une façon d'appréhender la vie qui était pleinement au présent. Et c'est un homme qui roulait dans Paris en buggy, par exemple, qui était une voiture typique de ces années-là. Et son look même, sa barbe, ses cheveux longs, et l'influence qu'il a pu exercer à la fois musicalement, mais aussi sur cette façon de vivre qu'il avait, qui tranchait considérablement, je vous le disais, avec les compositeurs et même avec les artistes de son époque. En tout cas, dans le cadre de la musique de film, c'est tout ce qui fait le charme. Et qui a tant influencé des musiciens contemporains, et à la fois sur le registre de la variété, de la chanson, de la musique électronique. On sait notamment que Nicolas Godin de Air a été très très influencé par François de Roubaix, Sébastien Tellier également, Rob également, Émilie Simon, Florent Marché, Vincent Delerme, voilà, des registres très différents de personnes, hommes et femmes, compositeurs, chanteurs, musiciens, qui ont été influencés. C'était aussi le sens que de rappeler ça, combien la musique de François de Roubaix existe aujourd'hui au présent à travers le visionnage des films dont il a fait la musique, mais à travers la musique des autres qu'il a pu influencer aujourd'hui aussi. Ben c'est le moment de conclure avec un extrait qui te tient à cœur, Pierre.
Mais oui, on va conclure. On va écouter à nouveau le générique de Chapi Chapeau, chanté par Philippe Catherine. Philippe Catherine qui a dû grandir avec Chapi Chapeau, puisqu'il est né en 1968. Quel jour, Fabien,
déjà ? Le 8 décembre.
Merci, c'est bien de l'avoir sous la main. Ben, on espère que cette émission vous aura donné envie de venir assister à ces différentes séances. Et puis, ben, rappelez-vous, que quand même celle du samedi 6 janvier à 18h, François de Roubaix, l'aventurier, est offerte. Et que donc là, il n'y a vraiment aucune raison de se retenir d'être là ce soir-là. Eh bien, merci beaucoup Fabien pour cette nouvelle émission.
Merci Pierre.
Et ces nouvelles programmations. À bientôt.
À bientôt. Chapeau, chapeau, patapon.